Vous écoutez, on lit pour vous.
Le droit à l'avortement menacé par Québec. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 30 novembre 2025, dans la presse. Avez-vous remarqué à quel point les réactions à l'idée d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution du Québec se suivent et se ressemblent? À la mi-novembre 2025, le barreau du Québec a effectué une sortie publique sans équivoque à ce sujet. Les risques encourus surpassent les bénéfices d'une loi ou d'un ajout législatif pour réaffirmer le droit à l'avortement, a-t-il conclu dans un mémoire. Le Collège des médecins ne voit pas davantage l'initiative d'un bon œil. Il estime que cette démarche comporte des risques importants, lesquels dépassent largement les bénéfices souhaités. Ces ressemblances ne sont pas fortuites. La clause, qui vise à protéger l'avortement dans le projet de loi 1 sur la Constitution québécoise, est décriée par à peu près tous ceux et celles qui veulent protéger le droit à l'avortement. C'est contre-intuitif, je le sais bien. Ceux qui critiquent le projet de loi le savent aussi. C'est pourquoi il est nécessaire de bien expliquer ce qui cloche avec cette initiative du ministre Simon Jolin-Barrette. Rappelons d'abord que l'avortement a été décriminalisé au Canada à la fin des années 1980 par la Cour suprême du pays avec l'arrêt Morgenthaler. On considère depuis qu'il s'agit d'un soin de santé au même titre que toute autre intervention médicale. C'est ce que rappelle le président du Collège des médecins, Maurice Gaudreau, dans la lettre qu'il a récemment fait parvenir à l'Assemblée nationale à ce sujet. C'est une notion fondamentale pour bien comprendre le débat qui est en cours ici, m'a expliqué Rachel Chagnon, professeur à la Faculté de sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Depuis l'arrêt Morgenthaler, dit-elle, on a fait passer la question de l'interruption de grossesse de façon pleine et entière dans les actes médicaux. Autrement dit, la société dans son ensemble, collectivement, à travers son législateur, n'intervient plus pour dire aux femmes ce qu'elles devraient faire de leur corps dans ce genre de situation-là. Et ça, c'est la protection optimale, ajoute-t-elle. C'est sortir la question de l'avortement des enjeux de société et en faire une question médicale qui est résolue entre un médecin et sa patiente. Comme le fait de se faire arracher une dent. Comme n'importe quelle autre intervention médicale, où la société n'intervient pas pour édicter les termes de l'intervention. Rachel Chagnon insiste pour dire qu'elle est convaincue que le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, est de bonne foi dans ce dossier. Pour avoir eu la chance de lui parler sur ce sujet-là, il le fait parce qu'il y croit profondément et personnellement. Dans la perspective d'un juriste civiliste, il n'y a rien comme inscrire quelque chose en toutes lettres dans un texte écrit pour lui donner plus de force, explique-t-elle. Par exemple, on donnerait force de loi au droit au logement et des outils à ceux qui le défendent si on l'inscrivait dans la Constitution québécoise. Parce qu'il n'est pas, à l'heure actuelle, pleinement assuré. La situation est complètement différente pour le droit à l'avortement. J'en ai discuté avec une autre experte, Véronique Pronovo. Cette doctorante en sociologie et en études féministes à l'UQAM a elle aussi déposé un mémoire dans le cadre des consultations publiques sur le projet de loi 1. Le titre ne laisse aucun doute sur ce qu'elle pense. Quand la loi menace le droit, pourquoi l'avortement doit rester hors du cadre législatif? Elle y raconte qu'elle a été très surprise d'apprendre, l'été dernier, de la bouche du ministre Jolin Barrette qu'il voulait inclure une disposition pour protéger le droit à l'avortement dans sa loi sur la Constitution. Ça m'a étonnée, parce qu'en 2023, donc il y a moins de 2 ans, on avait exploré cette option-là avec la ministre Martine Biron, qui était responsable de la condition féminine, signale-t-elle. À l'époque, souvenez-vous, le gouvernement caquiste avait reculé. Ça avait été entendu, tout le monde était d'accord, et on était passé à autre chose. On avait plutôt décidé, par la suite, d'élaborer un plan d'action sur la question de l'accès à l'avortement. Je vous ai parlé de Véronique Pronovost en 2024, quand j'avais appris qu'elle avait infiltré un réseau de militants anti-avortement en Floride dans le cadre de sa thèse de doctorat. Aujourd'hui, elle est en train de terminer un projet de recherche de 2 ans sur le mouvement anti-avortement au Québec. Si le gouvernement croit que légiférer sur le droit à l'avortement lui permettra de mieux le protéger contre ce mouvement, il fait fausse route, affirme-t-elle, à la lumière de ses recherches. Elle souligne dans son mémoire que ce mouvement social déploie des stratégies fondées sur l'adaptation continue aux fenêtres d'opportunité politique, médiatique ou institutionnelle. C'est la dernière donnée majeure à ajouter à l'équation pour comprendre le danger potentiel associé à l'introduction d'une clause sur l'avortement dans le projet de loi sur la Constitution. En ce moment, il n'y a aucune prise législative possible pour vraiment essayer de se battre de manière juridique et judiciaire, affirme Véronique Pronovost. En revanche, l'adoption de la dite clause créerait une brèche, prédit-elle, et ça ne prendrait pas énormément de temps qu'il y aurait des contestations. Cette brèche pourrait même être exploitée à l'avenir par d'autres élus, ajoute Rachel Chagnon. À partir du moment où on décrit le droit à l'avortement dans un texte, où on dit que les femmes ont un droit plein et entier à se faire avorter, on crée la possibilité pour d'autres partis ou d'autres gouvernements, de faire des amendements à cette loi-là. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, on se retrouve donc dans une situation où, si Simon Jolin Barrette voulait faire un cadeau au mouvement anti-avortement, il ne s'y prendrait pas autrement. Humble suggestion, si son gouvernement voulait vraiment faire œuvre utile en matière d'avortement, il devrait plutôt s'assurer que les femmes y aient accès partout au Québec dans des délais raisonnables. C'était « Le droit à l'avortement menacé par Québec », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 30 novembre 2025 dans la presse.
Une approche positive pour mieux guider les garçons. Un texte de Jean-Philippe Arcan, paru le 16 octobre 2025 dans La Presse. Comportement toxique. Initiation qui prenne des allures de séances de torture. Scandale d'agression sexuelle. Combien de fois avons-nous entendu parler d'histoires du genre entachant le monde du sport au cours des dernières années? Trop souvent, dirons-nous tous, et depuis beaucoup trop longtemps. Mais que peut-on faire pour tenter d'enrayer ou à tout le moins endiguer le problème autant que possible? SportAid espèrent avoir trouvé un moyen de lutter contre le phénomène. L'organisme, qui offre des services d'écoute et d'accompagnement aux acteurs du monde du sport qui sont témoins de tels événements odieux, a lancé mercredi le programme « Demain un homme ». Celui-ci s'adresse aux jeunes athlètes masculins du secondaire et à leurs entraîneurs, de même qu'aux fédérations sportives de la province. Dans le cadre de ce projet, des conférenciers réputés comme l'ex-joueur des Alouettes Danny Desriveaux iront s'entretenir auprès de ces jeunes hommes de comportements positifs à adopter dans un contexte sportif. Des ateliers de sensibilisation portant par exemple sur les types de masculinité, le leadership positif et la prévention de la violence seront aussi offerts, en personne et sous forme de capsules vidéo. Fruit de 2 ans de labeur, Demain un homme est inspiré en bonne partie des témoignages que SportAide entend dans les quelques 1300 appels reçus par sa ligne d'écoute chaque année. Et certains récents dossiers, hautement médiatisés, tels que le scandale d'Équipe Canada Junior 2018, sont venus conforter l'organisation dans la nécessité de mettre un tel projet en œuvre, explique le directeur général Sylvain Croteau. Dans le lot, il y en a des histoires de petits gars qui pissent le plus loin et qui pissent sur les autres dans le vestiaire, et des initiations qui ne tournent pas bien. On le savait qu'il y avait une problématique, et pas juste dans le hockey, relate celui-ci. Divers acteurs du milieu sportif québécois étaient d'ailleurs présents lors de l'annonce. Bon nombre de dirigeants d'associations sportives, mais aussi des visages connus comme Jean-Luc Brassard, Patrice Bernier, Jocelyn Thibault et Marc-Antoine Decoy, pour ne nommer que ceux-là. Plusieurs hommes, donc, vous l'aurez remarqué. Des hommes qui n'ont pas mis de temps à être convaincus de la validité et de la nécessité du programme. Je pense qu'on évolue comme société. Ce n'est pas juste au hockey ou dans les autres sports, mais aussi dans d'autres sphères de la société. Je pense que c'est un autre pas dans la bonne direction qui va permettre de rendre le milieu plus sain et plus sécuritaire, estime Stéphane Auger, directeur général de Hockey Québec. Où sont les parents? Tout ce beau monde s'entend pour dire que le programme Demain un homme se veut une excellente initiative. Mais certains se demandent à quel point elle pourra s'avérer efficace si les parents n'y jouent pas un rôle plus prépondérant. Pierre Lavoie, triathlonien et fondateur du grand défi qui porte son nom, a d'ailleurs lancé durant l'annonce de mercredi qu'il ne fait pas confiance aux parents pour sensibiliser leurs enfants à ces enjeux. Conséquence, dit-il, d'un manque d'éducation quant aux effets néfastes d'un modèle de performance et de spécialisation trop hâtif qui caractérise le sport mineur québécois. Quand on veut implanter des systèmes comme celui de la bienveillance, un des problèmes, c'est le parent qui se transpose dans son enfant et qui voit absolument en lui un athlète de haut niveau. Les parents manquent de connaissances et ils mettent beaucoup de pression sur les entraîneurs et les fédérations, a-t-il déploré en discutant avec la presse. Tant que tu n'en parles pas, l'imbécile va continuer de faire ses affaires. Je trouve que Demain un homme est un bel outil, mais il faut qu'il soit donné en présence des parents pour les amener à niveau. Les parents partent de très, très loin. Ils ont des préjugés et ça crée beaucoup de problèmes. Sylvain Croteau se dit conscient qu'il restera toujours une frange réfractaire de la population. On se fie au fait que la majorité des gens font appel à leur intelligence collective. On ne convaincra pas tout le monde, et on le sait avant de commencer. Mais nous, on pense qu'il y a une majorité qu'on peut convertir, croit-il. Partout, d'ici 5 ans. 16 équipes scolaires ont pu expérimenter Demain un homme à titre de projet pilote au cours de la dernière année. Et d'ici 5 ans, SportAide souhaite avoir étendu le programme partout au Québec. Une initiative similaire destinée aux filles est aussi dans les cartons. M. Croteau est convaincu d'atteindre ses objectifs, d'autant que Demain un homme suscite déjà un vif intérêt de la part de diverses organisations. Ça fait presque un an qu'on se retient de le lancer, parce que les quelques fois où j'en ai parlé, le téléphone a sonné tout de suite, souligne-t-il. Le programme pourrait même dépasser les frontières québécoises, alors que M. Croteau s'est rendu en Finlande la semaine dernière pour présenter le tout. Les gens saluaient la vision et l'audace, indique-t-il. Il y a quelque chose, et on répond à un besoin qui est pertinent, se réjouit le DG. Et ça, ça fait du bien. Parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on peut faire une différence avec des projets comme ça. C'était Une approche positive pour mieux guider les garçons, un texte de Jean-Philippe Arcan, paru le 16 octobre 2025 dans La Presse.
La vie après la guerre, un aspect trop souvent oublié. Un texte de Camille Harper, publié le 11 novembre 2025 dans le magazine La Liberté. Après avoir recueilli les témoignages de quelques 200 vétérans de guerre ou membres de leur famille dans les dernières années, dans le cadre du projet d'exposition Leur histoire, le Musée canadien de la guerre a profité d'une quatre-vingtaine de ces entrevues pour concocter une exposition spéciale anniversaire pour les 80 ans de la Seconde Guerre mondiale, dernière voie de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été lancée le 8 mai 2025. On s'est concentré sur une cinquantaine d'entrevues réalisées avec des vétérans et vétéranes de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'une trentaine avec des membres de leur famille, indique Mélanie Pelletier-Morin, historienne, guerre et société au Musée canadien de la guerre. Contrairement aux habitudes, ces entrevues, et donc l'exposition Dernière voie de la Seconde Guerre mondiale, ne parle pas tant de la guerre elle-même, mais plutôt de la vie et de l'expérience des vétérans depuis. Mélanie Pelletier-Morin développe. En écoutant toutes les entrevues, on s'est vite rendu compte d'un point commun à toutes. La guerre change les vies des vétérans, mais aussi de leur famille. Beaucoup ont confié que les civils ne pouvaient pas comprendre. Ça nous a particulièrement intéressés, car cette question de l'impact à long terme, ce n'est pas quelque chose de beaucoup étudié dans l'approche traditionnelle de la guerre. On oublie souvent que la guerre ne se termine pas quand les canons se taisent. Dès le processus de démobilisation au lendemain de la guerre, les témoignages révèlent des expériences diverses. Les vétérans n'ont pas tous reçu le même traitement, affirme l'historienne. Les programmes gouvernementaux de la fin des années 1940 étaient pensés avec l'homme blanc revenant du champ de bataille en tête, manquant ainsi de répondre aux besoins de plus de 50 000 femmes ayant servi pendant la guerre ou encore des soldats noirs ou autochtones. Des enfants de soldats canadiens noirs ont raconté qu'au retour de la guerre, leur père n'avait même pas pu obtenir un prêt à la banque puisqu'il était noir, rapporte Mélanie Pelletier-Morin. De même pour les soldats des Premières Nations, ils étaient bienvenus d'être avec les autres sur le front. Mais au retour, ils ne pouvaient plus aller boire un verre à la Légion avec leurs anciens camarades blancs. C'était important de souligner ces différences de traitement et d'opportunités. La seconde partie de l'exposition parle de refaire sa vie après la guerre. Autant d'expériences et de chemins différents que de personnes qui se sont prêtées à l'exercice. Certains ont pu vite se réinsérer et faire carrière, mais pour d'autres, ça a été beaucoup plus difficile. Les prisonniers canadiens, à Hong Kong notamment, ont subi tellement de violences physiques et psychologiques dans les camps de prisonniers pendant 4 ans que ceux qui en sont sortis ont développé des problèmes physiques et mentaux pour le reste de leur vie, explique Mélanie Morin-Pelletier. Sur place, au musée, les touristes peuvent s'asseoir dans des story box pour écouter directement les voix de ces vétérans et proches de vétérans qui se sont confiés sur les réalités de la vie après la guerre. Ces entrevues sont aussi disponibles en ligne. La dernière section de l'exposition parle de comment chacun et chacune a pu faire sens de son expérience, le plus souvent à l'approche de leur fin de vie. Certains racontent, par exemple, qu'ils n'ont pas pu en parler, pas même à leurs conjoints ou conjointes, ou retourner sur les lieux pendant plusieurs décennies. Parfois, jusqu'au 75e anniversaire de la guerre. D'autres parlent de leur culpabilité d'avoir survécu à la guerre et d'avoir eu toute une vie après. Notamment, le vétéran des Forces armées canadiennes, Reginald Harrison, 103 ans, dont le témoignage est central dans l'exposition. Cette partie de l'exposition revient aussi sur la multiplication des associations de vétérans de guerre après la Seconde Guerre mondiale. L'historienne souligne par ailleurs la portée de l'exercice en lui-même. Selon les derniers chiffres qu'on a d'anciens combattants Canada, il resterait au Canada moins de 1500 personnes ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale et ça continue certainement de baisser. D'où le titre de notre exposition, qui se veut un hommage à ces dernières voix encore capables de raconter leur expérience avant qu'elles aient toutes disparu. Rappelons aussi que certains de ces vétérans n'avaient jamais parlé de la guerre auparavant, ou très peu. C'est donc un vrai cadeau qu'ils nous ont fait de nous offrir leurs pensées, leurs mots, conclut Mélanie Pelletier-Morin. L'exposition « Dernière voix de la Seconde Guerre mondiale » sera en montre jusqu'au 18 janvier 2026. L'impact d'une bâtisse. En parallèle de Dernière voix de la Seconde Guerre mondiale, le Musée canadien de la guerre a lancé, en mai 2025, une autre exposition sous forme de balado, accessible par toutes et tous et partout, béton et lumière. Jenny Ellison, gestionnaire, stratégie numérique et publication au Musée canadien de la guerre et au Musée canadien de l'histoire, explique cette initiative. On voulait célébrer le 20e anniversaire de l'édifice du Musée canadien de la guerre à Ottawa en faisant réfléchir les gens à l'impact de la bâtisse elle-même sur les expositions et l'expérience du public au musée. Cette œuvre de l'architecte canadien Raymond Moriyama a en effet été conçu par ses soins pour mieux comprendre et ressentir les guerres, mais aussi encourager la démocratie et la justice sociale, redonner espoir. Notre but avec ce balado était vraiment de mettre en lumière l'espace et la relation entre l'espace et la thématique du musée, révéler un peu l'arrière-scène du musée. Au programme pour les auditeurs, des conservateurs et conservatrices du musée au micro, mais aussi des guides et une architecte travaillant avec Raymond Moriyama. En écoutant, le monde va mieux comprendre comment tout est mis en valeur, ainsi que connaître les différentes personnes qui contribuent à l'expérience au musée. On y apprend notamment que chaque espace vise à susciter une émotion particulière, selon la hauteur de plafond, la luminosité. Si je me sens triste ici, mais que j'ai envie de sourire là, ce n'est pas sans raison, explique Jenny Hellison. Rien n'a été laissé au hasard. Et ça, on n'y pense pas toujours en visitant le musée. Un autre aspect qui distingue cet édifice, c'est que tous les murs sont en béton, brun-gris, terne, sans beaucoup de détails qui détournent l'attention. Et le sol du foyer est juste un peu inégal. Raymond Moriyama a expliqué que c'était une métaphore de toutes les façons où une guerre peut être déstabilisante. C'est subtil, mais les visiteurs se sentent, eux aussi, légèrement déstabilisés quand ils marchent là. L'architecte a même été stratégique avec la lumière. Près de la tombe du soldat inconnu au musée, il a placé une fenêtre, de façon à ce que tous les 11 novembre à 11 heures, de la lumière arrive sur la tombe. Chaque histoire dans le balado est reliée à un espace du musée. Alors, pour les auditeurs, c'est un peu comme une visite virtuelle, termine Jenny Hellison. Avec en prime une explication de son architecture si innovante, réfléchie et remarquable. Ce texte est un extrait de notre cahier spécial « Jour du souvenir 2025 » qui a été publié avec notre journal du 5 novembre. C'était « La vie après la guerre, un aspect trop souvent oublié ». Un texte de Camille Harper, publié le 11 novembre 2025 dans le magazine « La Liberté ».